Des femmes dans la société sont reliées. Et donc, Trump sert ici de figure un peu de la misogynie. Et pourquoi Trump ne mange pas de tofu? Peut-être parce qu'il est misogyne. Et donc, c'est ce sur quoi porte le livre.
Mais est-ce que tu penses que si on mange de la viande, on est par définition un peu misogyne?
Ce que j'explique dans le livre, c'est que les raisons qui justifient qu'on mange des produits des animaux, les raisons que les gens donnent au fait de manger des produits animaux, et les raisons que les gens donnent au fait d'exploiter les femmes ou de commettre des violences conjugales ou sexuelles sont souvent les mêmes. Quand tu dis « j'aime trop ça, je peux pas m'en empêcher, c'est irrépressible, c'est une pulsion de manger de la viande », mais que ça fasse un peu écho à comment est-ce qu'on parle parfois des violences sexuelles dans notre société. Le désir masculin irrépressible, on peut pas s'en empêcher, c'est une pulsion, c'est des besoins sexuels.
Je connais beaucoup de femmes qui aiment la viande.
Audrey? Audrey?
C'est particulier, hein? Wow!
Hey, soit qu'on abandonne, soit qu'on fait autre chose. Moi, je veux faire autre chose.
Je veux juste être sûr que j'ai bien compris. Fait que si t'es pas... si tu manges la viande, t'es par le fait même probablement quelqu'un qui ne contrôle pas ses pulsions sexuelles et qui peut faire du mal à une femme.
T'as tout compris. Elle est censée faire la promotion du véganisme, mais en utilisant cet argumentaire-là.
Fait que la meilleure façon que le monde arrête de manger de la viande, c'est de faire passer tous ceux qui mangent de la viande pour des prédateurs sexuels.
Puis là, c'est pas une interprétation que nous on fait. Vous l'avez entendu dire.
C'est la version moderne de « Masturbe-toi pas, Jésus te regarde » tout le temps.
Donc, les véganes sont les meilleurs êtres humains sur Terre.
Ouais.
Parce que ceux qui mangent la viande sont potentiellement dangereux.
Les véganes respectent la femme.
Ouais, c'est ça.
J'aimerais entendre un nutritionniste sur le sujet.
C'est trop centriste, ça.
Okay.
C'est pas assez de tonton. C'est pas assez de tonton, ni d'un bord, ni de l'autre, tu sais.
J'aime tellement
j'ai,
pas ça.
J'ai d'autres extraits de la même.
Ah, OK, OK.
Oui, j'en ai d'autres.
OK, ben, je tout oui.
Merci à Yann Marceau de nous avoir partagé ce petit joyau.
Wow.
Parfois, on va même sexualiser ces animaux pour les montrer de façon sexy, donc consommable.
Dis, on érotise le corps des animaux comme on le fait avec le corps des femmes.
Exactement. Donc, on utilise la logique que si un individu est féminisé, sexy, appétissante, ça la rend consommable ou appropriable. Donc, on voit des publicités où tu as une truie en bas-résille dans une position sexy et qui porte du rouge à lèvres. Et pour le message implicite, c'est de dire...
Ben, on l'a compris,
C'est comme une femme, donc, barre ouverte.
Oui et non. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir de faire une association, même devant cette image. Le cochon est ainsi grimé. Donc, c'est barre ouverte avec les femmes.
Bien, si le message ne s'appuyait pas sur comment on conçoit les femmes et la sexualisation, l'hypersexualisation des femmes et les violences envers les femmes, ces publicités n'existeraient pas. Les publicités existent parce qu'elles font vendre, parce qu'elles envoient un message qui est compris. On se base sur le fait que les gens comprennent que les femmes peuvent être exploitées. Et donc, si on féminise les animaux, ça les rend plus exploitables. Et à l'inverse, si on animalise les femmes, ça les rend aussi plus exploitables.
Je comprends plus.
C'est ce que je trouve le plus désolant.
Moi, je comprends que Stéphane Bureau est un meilleur animateur que Rebecca McConnell.
Assurément, oui.
Il y a un pince sans rire que je ne lui connaissais pas parce que moi, j'aurais fendu. Là. J'aurais fendu de rire.
Moi, j'adore sa façon de réagir. Pour être honnête, il garde son sérieux.
Non,
elle ne comprend pas pantoute qu'il garde son sérieux. On dirait, là, c'est quand même assez... mais je trouve ça triste, tu vois, parce que je ne connais pas la femme qui est invitée. Je trouve ça tellement plate parce que ça a l'air d'une femme qui s'exprime bien, qui a des choses à dire, mais elle s'est perdue dans le chemin.
Ça sent la chambre d'écho.
De l'information.
Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le chemin. C'est pour ça
parce que moi, je me suis jamais reconnue dans un cartoon sexy ou dans un cochon qui porte du rouge à lèvres. Là,
je les cherche encore, ces publicités de viande qui rendent un animal sexy.
Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui s'égarent? À gauche et à droite, on les ramène vers le...
Centre. L'extrême centre.
Le centre. Mm. Faut devenir le phare de la société.
Oui, mais des fois, Denis, je pense que quand la brebis est trop égarée, le chien n'est pas capable d'aller la ramasser.
Comme je te dis, il y a du monde qu'on ne peut plus sauver. Moi, je veux travailler pour les autres. J'en ai d'autres.
Arrête.
Oui, j'en ai d'autres.
Ça m'excite un peu. J'aimerais. Je pense que ça t'excite. Non, mais
C'est la viande, hein?
Ben, ben,
c'est non, excitant.
C'est bien. Ça me rend sauvage. On sait comment tu traites les femmes, Audrey Pinchot.
Ben oui, non, mais là, j'écoute.
T'es violente.
Je comprends d'où vient mon côté animal tout d'un coup. Je saisis vraiment l'art de ses propos.
Ce soir, je partage un steak avec ma blonde et probablement qu'après ça, on va sortir dans la rue comme des vampires affamés.
Je vais devenir un loup-garou.
Pour agresser un passant à deux.
Je sais que l'hyperbole.
Ma blonde m'a agressé cette semaine. Ben oui, c'est vrai, je vous l'ai conté.
Elle fait manger un steak.
Avait mangé de la viande.
C'est ça, exact.
Ben, tabarnane, ça marche, son enfant.
Hey, coupe ça du frigo, même.
Puis, tu sais, l'hyperbole et l'image pour amener des réflexions, faire passer certains messages, je peux comprendre. Ça existe depuis toujours.
Moi, j'adore
ça. Je pense que c'est important de se questionner, se remettre en question. Je t'ai écœuré des raccourcis dans le bois.
C'est parce que tu peux parler de façon super intelligente de la sexualisation de la femme.
De l'hypersexualisation, de l'utilisation, un tas d'affaires, tout à fait.
Sans parler de cochon et du rouge à lèvres. Là.
Moi, je trouve qu'on doit commencer à parler de l'hypersexualisation du bacon. Puis je suis content qu'enfin quelqu'un amène le sujet. Là. Veux-tu entendre les autres extraits? Emmenez d'autres, les deux autres.
Il n'y a rien de sexy en plus à du bacon. Là.
Parfois, on va même sexualiser ces animaux pour les montrer de façon sexy. Donc,
les jouets, lui, c'est consommable. Okay, il m'en reste un, il m'en reste un.
Donc, s'il y avait 20, 30, 40 % de la population qui était végane, là, ça commence à influencer l'éducation, les menus, les restaurants, les épiceries. Donc, généralement, la criminalisation ou l'interdiction, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Je pense qu'il va arriver, c'est qu'il y aura plus de production parce que les entreprises qui produisent des produits animaux vont se dire « je vais produire des plantes, je vais faire plus d'argent ».
Merci, Suzanne Zacour. Ça s'appelle « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ».
Ouais, fait que c'est ça qui est ça.
Tu vois, sur le texto, mais c'est bien parce que ça amène des réflexions. Quelqu'un qui dit « maintenant, je comprends mieux l'expression « ma poule ».
Ah! OK.
La fameuse poule sexy.
Ben oui, oui, oui. Mm. Non, ça fait beaucoup...
Ça m'explique pourquoi, quand j'ai regardé le film des Simpsons, j'avais un petit quelque chose à chaque fois qu'il chantait « Spider Pig ». Spider Pig.
Ça te travaille en dedans.
Oui, 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 ça vient me chercher. Puis après ça, je peux pas m'arrêter.
Non, on dénonce le film Sing.
Ah, oh, mais hey, ça, c'est le pire, là. Ouais. C'est vraiment... Non, mais sérieux. Zootopia, là. Moi, quand tu parles lentement à caisse, là, ouf.
Là, les paresseux, là. Les frissons dans mon dos.
C'est vraiment le temps qu'on retrouve nos repères, collectivement. Ça inclut les médias aussi. Bordel. Faut être meilleur que ça, là, des deux bords. Puis... Je cherchais le point de bascule. Je pense que tout ça... Qu'est-ce qu'il y a?
J'aimerais qu'on se rappelle qu'on tue les plantes aussi pour les manger. Qui a décidé que la vie d'une plante est moins importante que la vie d'un animal?
Et moins sexy!
Une belle marguerite dans un champ.
Écoute!
Libre comme l'air. On sexualise beaucoup moins les fleurs.
Ben oui, voyons!
Est-ce qu'on a pogné notre point de bascule quand Denis Lévesque a commencé à faire des entrevues avec des bizarres à toutes les soirs à LCN?
Attention, là, c'était des bizarres qui racontaient qu'ils s'étaient fait enlever par des extraterrestres. Ouais. Là, on est totalement ailleurs. On est à une place où une fille essaie de nous dire que les hommes mangent la viande, donc ils traitent des femmes comme de la viande. Puis, tu sais, c'est comme ça se tient pas, là. Ça fonctionne pas. Puis, je comprends que par valeur, il y a des gens qui sont véganes. Ça leur appartient.
Hey,
mais de tenter
ça.
De convaincre du monde de devenir végane en disant « Denis, c'est parce que tu manges de la viande. »
Tu vas être agresseur.
En toi, tu vas violenter des femmes ou tu vas faire des violences sexuelles.
Denis Lévesque invitait l'idiot du village pour rire de lui avec les autres. Là, on invite l'idiot du village, on le fait passer pour un intellectuel de gauche à Radio-Canada ou de droite à Radio X parce que pour moi, c'est la même affaire. Je sais que ça forge du monde quand je dis ça. Mais moi, c'est ma réalisation. Puis c'est pour ça que je suis rendu ailleurs aussi. Parce que quand tu fais partie de la joke puis de ce que tu dénonces, t'es plus à la bonne place.
J'ai l'impression que c'est les changements climatiques, mais des opinions. Tu sais, en parlant en début de show, là, il fait fret à des places où il devrait faire chaud, puis il fait chaud à des places qui devraient faire fret pour se contrebalancer. Mais c'est extrême. C'est carrément ça, des opinions. Les extrémistes de gauche, vous êtes aussi pire que les extrémistes de droite que vous essayez de dénoncer.
Moi, je suis pas revenu de ce qu'on vient d'entendre, là, honnêtement. Là,
t'es encore sur le bacon.
Ça donne faim.
Martin, t'es une galaxie éclatée
je
en ce moment.
Je peux comprendre.
Je cherche encore les liens directs. Est-ce qu'elle a vraiment dit des produits animaux au lieu de produits animaux? Ça se dit. Ah ouais, OK. Mais il y a des gens qui soulignaient
peut-être elle avait une bonne conjugaison. Le problème est ailleurs. Elle a meilleur delivery que l'autre.
Elle lisait pas des feuilles.
Qui lisait un texte, là, puis que c'était pas facile.
C'est fascinant, tout ça.
Fait que c'est ça.
J'ai tellement le goût qu'on retrouve le vivre et laisser vivre en général dans la vie.
À un moment donné, il y a des gens qui étaient convaincus que Maxime Bernier était l'avenir du Canada. Quand je vous dis que, et à gauche et à droite, on est rendu fêlé solide, revenons ensemble vers le milieu. Parlons-nous, écoutons-nous et laissons ces gens-là délirer chacun de leur bord.
Bon, là, il y en a qui voient de la sexualité des légumes. J'étais un peu mal à l'aise. Les gros concombres juteux.
Ben là, écoute, là, j'ai une femme qui... troublant, je suis une femme, je chasse. Lorsque je tire sur l'animal, que je lui dis merci pour donner sa vie et me nourrir, je suis quoi? Un monstre? Ça me fait penser au sophisme. Si une fourchette a des dents et que j'ai des dents, alors je suis une fourchette.
C'est tellement vrai! Mon Dieu, oui!
Mais c'est tout ça qu'ils font. C'est tout ça qu'ils font, Cynthia. T'as tellement raison. Bravo. Bravo, l'image est très, très bonne. C'est tout ça qu'ils font. Ils font ça avec le trans qui a tué du monde. Si t'es trans, t'es malade dans la tête puis t'es un futur meurtrier.
Puis qu'est-ce que Trump vient faire là-dedans? Hein?
C'était pour attirer l'attention sur le bouquin.
OK.
Oui, parce que Trump représente tout le vice masculin là, incarné. Là.
Ben le sus.
Moi, c'est drôle.
Peut-être la seule affaire logique dans tout ce qui a peut-être pu amener.
Parce que moi, je suis un homme, puis je me reconnais vraiment pas dans Donald Trump.
Là, je me questionne beaucoup.
Mais je suis pas encore dessus, moi.
Il fut un temps où les extrêmes ont toujours existé à différents degrés, mais il y avait peut-être moins de plateformes pour s'exprimer, se retrouver en groupuscule. Maintenant, il y a les médias sociaux, puis on l'a vu, ça a créé des amalgames absolument extraordinaires. Qu'est-ce qu'on fait avec les extrémistes de part et d'autre?
On les laisse aller.
Est-ce qu'on leur donne des tribunes?
Non.
Pour le dénoncer?
C'est fini. Ils l'ont assez fait, tout le monde.
Parce que, tu sais, là, aujourd'hui, on a parlé...
Une tribune de droite va prendre des tourlous de gauche pour rire d'eux autres, puis une tribune de gauche va prendre des tourlous de droite pour venir... Ça fait 20 ans qu'on fait ça. On peut-tu arrêter?
Nous, on fait quoi avec les tourlous?
Ben nous autres, à l'extrême centre, on peut rire des tourlous des deux bords. Parce qu'on n'est pas là. On fait pas partie de la joke.
J'ai l'impression qu'actuellement, on a excité des tourlous de l'autre bord.
Oui, mais ça, je m'en fous comme l'an 40. C'est parce qu'il y en a qui sont plus proches, puis l'autre gang est à Montréal. Mais si on était à Montréal, on choquerait des tourlous de gauche. Là, on choque des tourlous de droite. Il y a peut-être du monde qui allume aussi, puis c'est tant mieux si c'est le cas.
Bon, on sexualise encore des fruits puis des légumes. On nous envoie des émojis d'aubergines, de pêches, de cerises. Quel genre de personne vous êtes?
Quand on se donne le droit de réfléchir, on se donne le droit de voir les clowns à gauche et à droite, puis de se garder bien stable dans le milieu en se disant « Moi, je participe pas à ça. » Je les regarde jouer au ping-pong, puis une fois de temps en temps, je pige à droite puis je pige à gauche, je fais entendre ça, on trouve ça drôle. Pas d'insultes, pas de colère, pas de menaces. Non, on trouve ça drôle parce qu'on est bien. On est bien parce qu'on raisonne. On est bien parce qu'on argumente. On est bien parce qu'on explique. On est bien parce qu'on analyse. On est bien parce qu'on se prend pas trop au sérieux. Juste assez des fois. On est bien parce qu'on rit puis on pleure. Pas au nom d'une idéologie vide, comme la gauche puis la droite. Sortez-vous la tête du cul. Sortons-nous la tête du cul. Boulevard 102.1. Je veux pas impliquer tout le monde, mais Gravel dans le retour est maintenant la capitale de l'extrême centre. Nous sommes des maudits centristes et personnellement, je suis fier de l'être.
Je suis encore perturbé.
C'est quoi ta relation avec la vache qui rit?
Ben, c'est fourrant, ça, hein?
Je pense qu'on a quelqu'un sur le texto qui la trouve sexy.
Si tu regardes avec des gros yeux, la vache va rire jaune, là.
Ça part d'elle.
On revient! 17h. 17h13 dans le retour.
Gravel. Dans le retour.
En fait, ce que vous faites à la radio, ça, j'aimerais bien, je crois.
C'est le retour de Boulevard 102.1. Boulevard
102.1. 17h22. des scénarios de médailles, c'est le pire qui s'est produit finalement, Véro, parce qu'il restait deux couples. Ouais. Il y avait une place de médaille assurée pour nos patineurs. Et finalement, ce sera le bronze.
C'est les Olympiques ont le sens du spectacle. Fait qu'en danse aujourd'hui, en danse sur glace, on avait pris les notes de danse rythmique. Puis ceux qui avaient eu les notes les plus fortes passaient en dernier. Fait que le couple canadien Paul Poirier puis Piper Gillis doivent se contenter d'une médaille de bronze. Mais je dis se contenter.
La quatrième pour le Canada?
C'est la troisième pour le Canada, quatrième médaille en tout parce qu'on a aussi une médaille d'argent en courte piste relais mixte. Fait qu'ils ont été dépassés par les États-Unis avec la médaille d'argent et par la France qui a un couple qui est formé du français Guillaume Cizeron et de la Québécoise Laurence Fournier-Baudry.
Ah ben oui, hein?
Ouais.
Hey, il y a beaucoup de Québécois qui compétitionnent pour beaucoup de pays.
Ouais.
Puis ça se peut-tu qu'on étire l'élastique un petit peu de façon générale?
Mais d'un autre
générale,
côté, Denis, si tu as une possibilité parce que tu as double citoyenneté, si tu n'es pas capable de te classer dans ton équipe parce que tous les autres sont trop forts dans ton pays...
Oui, mais là, on est rendu vraiment avec des gens qui représentent des pays dans lesquels ils n'ont jamais mis les pieds de leur vie. Là.
Ben oui, ils sont pas de la compétition pour ça. Tu sais, mettons, l'Italie d'ailleurs, c'est rendu combien l'Italie contre la Suède au hockey? Bon, c'est 3-2 maintenant pour la Suède, mais c'était 2-2. T'as un Québécois qui représente l'Italie parce que son grand-père est italien, fait qu'il avait pu demander son passeport. Mais il n'a même jamais joué dans la Ligue nationale ici, fait qu'il n'aurait pas fait l'équipe canadienne. Fait que lui, il aspirait à un rêve olympique, fait qu'il l'a fait.
Bon, mais moi aussi, j'ai le droit d'avoir un rêve olympique. Je vais représenter la Jamaïque en ski de fond.
Et à l'inverse, j'ai l'impression, Denis, j'ai l'impression que si on fouille un peu... Il y a peut-être des membres de l'équipe canadienne qui sont membres de l'équipe canadienne avec un élastique un peu étiré.
Oui, oui, mais moi, ça va des deux bords. T'as-tu compris ma logique de l'extrême centre? Je le dénonce des deux côtés.
Oh!
Là. Oui, oui, absolument.
T'es conséquent.
Pas mieux d'un bord que de l'autre. Hey, beaucoup de circulation, Audrey, alors que la visibilité est quand même relativement réduite au moment où on se parle.
Et poche. Si vous êtes sur Laurentienne, direction nord en ce moment, l'accès par le boulevard Louis XIV est partiellement entravé. Il y a un accrochage. Il faut savoir que les policiers sont déjà sur place. Le remorquage est en cours. Ça crée quand même pas mal de ralentissements. Le Laurentienne Nord, ça part, je vous dirais, de Charest jusqu'à peu près Jean Talon pour ce qui est du ralentissement. Henri IV Sud, ça se passe de Versant... Non, c'est pas vrai. Ça se passe de chemin Sainte-Foy au pont. Même chose pour Duplessis Sud. Si vous êtes sur la capitale direction Est, c'est entre Henri IV et Laurentienne en ce moment. Toujours assez difficile. Robert Bourassa, direction Nord entre Charest et la capitale. Au ralenti aussi. Henri IV Nord, ralentissement inhabituel à la hauteur de la capitale. Il y a aussi un problème si vous êtes, mettons, sur la 40 direction ouest. Il y a un accident, semble y avoir un accident en ce moment, dans le coin de la 138. Fait qu'à peu près, dans le coin de Saint-Augustin, là, dans le coin de la 138, au croisement, carrément, là, vous avez un accident qui fait en sorte qu'il y a un ralentissement inhabituel dans ce coin-là aussi. Pour ce qui est de la Rive-Sud, c'est pas mal fini. Là. Encore quelques petits problèmes à la hauteur de chemin des îles, ça vient ouest, mais c'est pas mal tout. Évidemment, il y a autre chose, 88-971-102, texto.
On l'a invité à quelques reprises au fil des mois, parce que sur les questions de tourisme, il est toujours intéressant. Puis, il y a eu un texte qui a été publié dans Le Devoir, il y a pas longtemps. Des comités de citoyens, entre autres, qui s'inquiétaient de la Disneyisation du Vieux-Québec, qui, par les temps qui courent, pète des scores au niveau touristique.
Oui, parce qu'on on s'est rendu compte qu'il ne reste plus d'épicerie. La dernière pharmacie qui est sur le secteur de la rue Saint-Jean ferme ses portes. Fait que tu n'as plus de commerce de proximité ou de moins en moins de commerce de proximité, mais tu as des boutiques puis des restaurants pour plaire un peu plus aux touristes. Puis pourtant, la Ville de Québec essaie d'amener de plus en plus de citoyens à y vivre, puisque quand tu vas visiter une ville, tu n'as pas le goût de visiter un parc d'attractions. Tu veux visiter une ville avec ses citoyens puis de la vraie vie.
Doctorant en géographie et spécialiste du tourisme, Mathieu Saint-Pierre est en studio avec nous autres. Salut Mathieu.
Salut, ça va bien?
Welcome back.
Ouais, merci, merci.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. La Disneyisation, en partant, c'est quoi?
Bien, en fait, c'est quand qu'un lieu touristique qui se transforme ou qui se simplifie, va simplifier leur culture, leur histoire ou bien, tout ce qui vient avec pour la commercialiser, dans le fond.
Mm-hmm.
Pour faire en sorte d'attirer le plus de personnes possible vers le lieu touristique au détriment de plusieurs autres facteurs qui pourraient être plus authentiques, par exemple, de la destination. C'est un peu plus dans une logique capitalistique là, pour attirer plus de monde sans prendre en compte le reste, sans prendre en compte la culture.
C'est Disney a le don. Moi, j'ai été captivé les deux fois que je suis allé parce que tu passes des journées là, puis tu le réalises pas. Puis je pense que la façon de Disney, d'avoir créé la Disneyisation, il y a comme des principes de base. Là.
Oui, ben pour vrai, vous avez nommé quand même déjà deux bons principes, mais c'est un chercheur, un sociologue qui s'appelle Alan Breeman au début des années 2000-2004. Je pense qu'il a sorti un livre qui a étudié ça.
OK.
Puis lui, il a regardé qu'est-ce qui fait en sorte que les gens restent justement plusieurs jours dans les parcs d'attractions puis qui sont immergés. L'immersion, c'est ce qui était le plus important, ce qu'il a trouvé. Les sites, les parcs thématiques, à cause, c'est pas juste Disneyland, là, il y en a plusieurs autres, bien, eux, ils misent sur l'immersion.
Mm-hmm.
C'est 100% ça. Puis ça, quand t'es immergé, bien, tu perds tes repères de temps.
Ah, mais t'as l'impression d'être carrément ailleurs. Puis tu parles d'autres parcs Disney. Universal, là, son parc de Harry Potter. Ouais. T'as vraiment l'impression que tu t'en vas visiter l'école, le village. Ouais. T'as l'impression que tout a changé. Le temps, la température, le continent, c'est fou l'effet que ça peut faire.
T'es dans une file de 2 heures pour une attraction.
Ça te dérange quasiment
la musique, le décor, les écrans des fois vont te donner l'impression que t'es déjà dans le manège puis que t'en es pas sorti.
Effectivement, il y a aussi Star Wars dans Disneyland.
Qui est franchement épatant dans ce cas-là. Là.
C'est les deux exemples assez typiques d'immersion qui a été faite. C'est ça, il y a 4 principes. Vous en avez déjà nommé quelques-uns qu'on peut parler de la consommation hybride, c'est-à-dire que tu as tout à l'endroit pour survivre. Tu peux manger, tu peux aller aux toilettes, tu peux vivre là littéralement plusieurs jours sans en sortir. Quand on parle de Disneyland, ça va, mais quand on parle d'un lieu touristique que tout dans un demi-kilomètre carré, ça peut devenir problématique. Les gens ne vont pas sortir de ce kilomètre carré-là parce qu'ils vont avoir peur d'aller voir plus loin. Après ça, il y a aussi la thématisation. Quand tu vas à Disneyland, tu vas voir des trucs de Disney. Puis c'est parfois de la monothématisation. Il y a plusieurs thèmes. Il y a comme les thèmes, les Disney Princess, tu peux avoir le Star Wars, etc.
Chaque pavillon aussi a ses thématiques. Ça, c'est le pavillon des nations. Ça, c'est celui de la nature. Donc, la jungle puis les personnages qui sont reliés à ça. T'sais.
Fait que cette thématisation-là. Mais quand tu es sur un site touristique, si tu vas dans la thématisation, bien, ça vient simplifier un peu toute la culture et toute l'histoire. Il y a aussi tout ce qui est la marchandisation en lien avec cette simplification-là. C'est quand on transforme la culture en quelque chose qui est commerciable. Quelque chose qui est facile à visiter.
C'est-tu genre le principe aussi des produits que tu vas vendre? Mettons un orignal en toutou dans une canne de sirop d'érable?
C'est vers là, je m'enlignais vers les produits dérivés.
Classiques.
Ils sont classiques. Puis ils sont en lien avec la thématisation. Si on a un thème qui est, par exemple, l'histoire francophone, on va juste vendre des produits dérivés en lien avec ça et non avec le reste de l'histoire.
Sais-tu quand est-ce que ça m'a sauté d'en face, ce principe-là, Mathieu? C'est quand je suis allé à Calgary pour la première fois puis que je suis rentré dans une boutique de souvenirs de Calgary. Puis, OK, il y avait des chapeaux de cow-boy, là, mais le reste, là, tu sais, les chandails « I love Canada » puis toutes ces affaires-là, je me disais... Ben, c'est toute la même cochonnerie qu'il y a dans un kiosque à souvenirs.
Ah, mais il y en a qui ont commencé à se diversifier. Je pense au Vieux-Port de Montréal, qui ne vendent pas juste des affaires qui ont rapport avec la vieille histoire. Maintenant, ils vendent des porte-clés en cône orange.
Oui, c'est oui.
On
essaie de faire ce qu'on peut.
On se modernise.
Il y a un dernier principe que je voulais aller dessus. C'est aussi le travail émotif ou performatif. Il n'y a pas de bonne traduction, mais c'est toutes les mascottes, par exemple, qu'il y a à Disney. Ils font vivre l'émotion, ils font vivre tout ça. Mais là, c'est rendu que dans les sites touristiques qui sont Disneyisé. Il y a ça aussi, par exemple, quand je suis en Normandie faire mon doctorat, toutes les femmes qui étaient aux caisses, ils étaient déguisés comme en 1940, gros maquillage rouge en kaki et tout. Puis ça, ils parlent un peu comme si tu étais dans les années 40 et tout. Fait que ça, ils viennent faire une performance pour donner quelque chose de plus spectaculaire.
Ils font vivre une expérience.
Oui, puis tu sais, en soi, c'est pas nécessairement mal. Mais c'est quand tu mets tout ça ensemble, mais ça crée
quelque chose
problème.
De plus artificiel.
Oui, exactement. Ça vient aseptiser, qu'on dit. Mais
est-ce qu'on est rendu là, vraiment, dans le Vieux-Québec, d'après toi? Il me semble que non.
En fait, il y a plusieurs éléments, mais pour le Vieux-Québec, c'est surtout la monothématisation qui est vraiment importante. Oui, la consommation hybride, quand je dis que tout est dans la même place, il y a ça, mais c'est surtout la thématisation. On est vraiment axé seulement sur l'histoire francophone de la ville. Presque seulement sur l'histoire francophone de la ville. Puis tu sais, ça vient vraiment simplifier notre histoire. Ça vient complètement changer ce qu'on a vécu. Puis tu sais, on peut penser, déjà, architecturalement parlant, le Vieux-Québec, il n'y a pas beaucoup de traces de l'époque francophone, du régime français. Tu sais, on peut penser... La citadelle, tu sais, Mark Carney était à la citadelle, puis on entendait c'est la bataille a eu lieu là. La citadelle, c'était faite pendant le régime anglophone, pendant le régime britannique. On peut penser aux fortifications aussi. On peut penser à la rue d'Auteuil, là, la rue à l'entrée.
Qui... Finalement, les citoyens qui demandent de la musique francophone dans le Vieux-Québec, ils n'ont pas de rapport. Ça prend, ça prend du British qui va jouer partout. C'est ça que je comprends.
Non, vraiment pas. C'est juste qu'il faut quand même mettre aussi le côté, tous les côtés, parce qu'on n'est pas seulement, on n'a pas seulement un héritage francophone. On a un héritage aussi anglo-saxon qui est important.
Puis quand tu parles d'architecture, tu portes un bon point. Je veux dire, on a une architecture. Quasiment tout a brûlé, là. Je veux dire...
Détruit par le siège aussi, oui.
Exact, exact.
T'sais, les églises aussi, là, les églises dans le Vieux-Québec, là, l'ancien, la maison de la littérature, c'est une Temple Wesley, c'est méthodiste. Il y a le Saint-Patrick qui est pour les Irlandais proche de la redoute Dauphine sur McMahon. C'est tous des lieux qui sont britanniques, qu'on oublie. Fait qu'on vient juste s'axer sur le côté francophone.
Puis Disney, c'est des parcs d'attractions... Personne vit là, à part le staff quand il travaille fort, fort, puis dur, dur, là, puis les gens qui restent dans les hôtels. Dans une ville comme Québec, ça semble être l'espèce de débat perpétuel dans le Vieux-Québec, tu sais, qui ont perdu des épiceries, ouais. qui ont perdu des pharmacies. Ça semble difficile pour les écoles aussi, la circulation en général. Là, on voit qu'il y a une hausse de la criminalité aussi. C'était en bas, ça commence à monter en haut tranquillement. J'imagine que le fait de transformer ça en parc touristique, ça a beaucoup de répercussions aussi sur la qualité de vie des gens qui vivent dans ces secteurs-là.
Mais la première critique qui est faite, la Disneyisation, c'est ça, c'est la place des résidents. Les résidents ne sont pas pris en compte. Puis je vais raconter l'histoire de Place Royale en lien avec tout ça. Il y a vraiment une grosse histoire avec Place Royale qui est vue aujourd'hui comme le berceau de l'Amérique française en lien avec le dernier bastion français, une petite Europe. Mais il y a 70 ans, ben, c'était vétus, c'était en ruine. Il y avait presque. C'était vraiment pas un lieu touristique.
70 ans, c'est quand même assez récent.
Oui, c'est quand même assez récent. Puis, tu sais, dans les années 50, le berceau de l'Amérique française, c'était l'île d'Orléans.
Ah, ben oui. Hein?
C'était vraiment pas vu comme la Place Royale. Puis là, ça a été tout rénové. Ils ont mis. Derrière les briques, là, les belles briques, les beaux toits, mais c'est du béton. Là. C'est fake. Effectivement, ouais. C'est du face à dire ce que ça s'appelle. Puis ils ont tout reconstruit ça pour lui donner comme le côté francophone, le côté qu'on a à l'UNESCO, en fait, le dernier bastion francophone. Puis, tu sais, le culminement de tout ça, ben c'est, si je vous dis, Leonardo DiCaprio.
Ben oui.
Catch Me If You Can.
Mm-hmm. Ben oui, dans l'église.
C'est, ben dans l'église, dans Place Royale. Ouais. Puis, tu sais, c'est présenté comme un lieu... en Europe, en France. Fait que c'est un peu l'image qu'on a voulu donner, puis ça l'a donné cette thématisation-là, surtout avec les Fêtes de la Nouvelle-France, qui est un peu le côté performatif qu'on peut dire. Mais ça, c'était fait au détriment des résidents. C'est là le lien que je fais avec tout ça. Oui. Mais il y a des lettres vraiment émotives que j'ai lues. Là. C'est des lettres que clairement, la personne a pleuré pour écrire cette lettre-là, pour dire que pourquoi vous me délocalisez. Ils ont été délocalisés, mettons, dans le coin de Mézeray à peu près, là, ou les Tourbardiers dans ce lieu-là. Mais ils ont été délocalisés là, puis le monde, il pleurait, puis il faisait des lettres, puis il y a encore des gouttes, tu sais, comme... Puis les résidents n'ont pas été pris en compte, puis c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'on n'a plus d'épicerie. T'sais, l'épicerie la plus proche, c'est le métro en basse-ville ou le métro sur quartier. C'est vraiment loin quand tu es à côté de Château-Frontenac.
Dans des villes hyper touristiques, Mathieu, comment on fait pour garder une qualité de vie des résidents? Tu sais, moi, je pense à Rome, je pense à Venise. C'est comme les premiers flashs que j'ai de villes qui sont peut-être disneyisées à l'os, là, tu sais, le Colisée de Rome, puis les deux, trois ruines qui restent, puis Venise, la place romantique, puis tout le monde se promène. On a-tu trouvé des façons de moyenner un peu?
Bien, Venise, c'est vraiment un bon exemple parce que la lagune, sans touristes, il n'y a personne. Uh-huh. C'est vraiment vide. Il y a Barcelone aussi qui est un bon exemple de Disneyisation. Mais je vais parler de Barcelone parce que c'est là qu'on a vraiment un exemple de mesure qui a été prise contre le surtourisme. Maintenant, tous les voyageurs vont payer vraiment une taxe assez. Ben, ça l'est pour un voyageur, ça l'est pas tant, mais c'est quand même une taxe pour chaque nuit, même pour l'Airbnb, même pour n'importe quel type d'hébergement. Puis avec ça, ils ont construit des logements, ils ont fait des épiceries pour les résidents, des restaurants pour les résidents, parce que ça tente pas quand tu résides dans le Vieux-Québec à aller boire une bière à 15$. Là. C'est pas ça qui tente. Fait que...
Les trappes à touristes, t'as pas le goût d'y aller, toi. T'es pas
non,
un touriste.
C'est ça, exact.
Puis tu le sais.
Effectivement. C'est ça. Fait que oui, c'est... Le viser l'immersion totale, c'est vraiment pas ce qu'on veut parce que ça, c'est au détriment des résidents. Puis c'est les résidents qui font le patrimoine. Mmh. C'est quelque chose vraiment d'important à dire parce que le patrimoine,
c'est pas
fixe.
Parce qu'on cherche souvent cette immersion-là. Oui. On va chercher, c'est quoi la vraie vie du monde? Tu vas à New York, tu vas essayer tu voudras pas nécessairement dans Times Square. Tu vas aller dans East Village, tu vas aller à Greenwich pour essayer de connaître autre chose que les mascottes qui ont des puces de lit.
Puis tu sais, le patrimoine aujourd'hui, c'est les résidents qui l'ont fait. Là.
Oui.
Qui
ont continué à vivre.
Ça s'appelle du placemaking, là, mais quand tu arrives en quelque part, tu veux avoir ta, ta, ta place à toi, ton quartier. C'est comme ça que les quartiers ethniques sont faits aussi. Là. Le quartier, mettons, chinois, ben c'est pas... Il n'était pas de même quand les premières ethnies ils sont arrivés dans le quartier. C'est eux qui l'ont construit. Puis c'est aujourd'hui des quartiers qui sont vus comme patrimoniales et qu'on devrait figer. Quand ils ont toujours bougé, ils ont toujours été modifiés.
Fait que si t'enlèves les gens de là, ça perd un peu sa couleur, sa saveur.
Ça arrête d'évoluer aussi.
Mais il faut que t'aies une vision pour penser à ces choses-là. Puis moi, je suis obsédé par ça. Je trouve qu'on manque de vision au Québec de façon générale sur le développement, sur les stratégies, puis ainsi de suite. Puis on souffre peut-être un peu de ce manque de vision-là. On dirait que les objectifs sont loin. On pense aux 4 ans. On pense pas à long terme quand on développe, quand on veut changer certaines choses.
Mais il y avait quand même du positif parce que la fermeture de la pharmacie, ça fait un clou qui va aller contre ce que je vais dire là. Mais il y avait une tentative de ramener des résidents. Il y a entre autres l'îlot Charlevoix qui est en face de l'ancien Ashton.
Oui.
Je sais pas si vous... Il y a comme, c'était vide pendant vraiment plusieurs années. Puis là, ils veulent construire de quoi là? Ils veulent mettre une épicerie dedans. Mm-hmm. Fait que c'est déjà quelque chose qui va attirer des gens. Il va y avoir une interdiction de faire des Airbnb dans les logements qui sont au-dessus. Puis c'est vraiment bien pensé. Puis ça
garde... Il y a plusieurs villes qui s'en vont vers ça, d'empêcher le Airbnb pour que ce qui est des loyers puisse servir à des gens vont y vivre, des résidents carrément. Il y a certaines villes aussi qui vont empêcher les grandes chaînes de s'établir dans les quartiers pour que ce soit des commerçants locaux qui puissent s'y installer.
Oui, vraiment. Il y a plein de petites tactiques comme ça. Mais c'est dur de se battre contre des grosses industries qui font des centaines de millions par année.
Qui ont des moyens.
C'est là aussi qu'il faut regarder.
Hey Mathieu, merci beaucoup. Ça a été super intéressant.
C'est un plaisir, comme toujours.
Toujours un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Mathieu Saint-Pierre, doctorant en géographie et spécialiste du tourisme, 17h38.
Gravel dans le retour.
Avant d'aller jaser de hockey olympique, demain, le Canada hockey masculin commence. Et déjà aujourd'hui, on a commencé à voir des noms qu'on connaît et qu'on reconnaît, qui se sont distingués. Deux choses. D'abord, dans la circulation, Audrey.
Honnêtement, pour cette heure-ci, c'est rare que c'est aussi épouvantable. Et peut-être commencer par leur ancienne nord. Entre, je vous dirais, Charest et Jean Talon. Super difficile de circuler si vous êtes sur la capitale, direction est, entre Henri IV et Laurentienne. Ça n'a pas bougé. Robert Bourassa, direction nord, entre Charest et la capitale, difficile. L'entrée des ponts, toujours au ralenti. Pour ce qui est de la rive sud, c'est clair. Et il y avait un accident un peu plus tôt. Il est encore là. Sur Charest ouest, c'est à la hauteur de la 138, le croisement avec la 138. Et je vous dirais qu'entre Jean Gauvin, mettons, et ce croisement-là de la 138, là, c'est un vrai bordel. Fait que soyez prudents. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 texto.
Véro, quatrième médaille pour le Canada, c'en est une de bronze.
Exactement, c'est en danse sur glace qu'on a été capable d'aller en chercher une avec le couple Paul Poirier et Piper Gillis. C'est leur première médaille dans cette discipline.
Max Larouche, ton niveau d'excitation avec le Canada masculin qui entre en scène demain?
Ça monte tranquillement pas vite là, de voir le bon hockey qu'on a eu surprenamment aujourd'hui. Ben ça donne envie de voir notre équipe se mettre en action.
Là, c'est à quelle heure demain?
Demain, ça tombe en plein pendant le point de max à Boulevard, c'est-à-dire 10h40. Fait qu'on va pouvoir suivre ça ensemble, ça va être magistral.
Comment tu vas faire pour faire ton show de radio?
Fermer la TV?
Non, mais pendant l'open mic, Audrey s'arrangera, puis pour le reste, on verra.
J'ai-tu congé demain, c'est ça que tu me dis?
Non, au contraire. Tu parles pendant que tu regardes le hockey.
Ben, OK, c'est ça. Tu veux que j'anime les gens. OK.
Ben, tu nous parleras de l'hypersexualisation de la viande. Tu as appris là-dessus aujourd'hui. Hein?
Oui, je vous résume ça demain si vous n'avez pas entendu l'extrait.
Filet mignon. Il y a eu des surprises aujourd'hui. D'abord, parlons du match entre la Suède et l'Italie. Je comprends qu'il y a un goaler qui a gaulé sa tête.
Ouais, puis, tu sais. Autant aux Olympiques, il y a des belles histoires. Des fois, il y a des événements qui viennent te briser le cœur. Puis là, on a eu les deux dans ce match-là parce que Damien Clara, le gardien italien, qui est un espoir des Ducks d'Anaheim dans la LNH, engolait une tabarouette.
Incroyable,
au point où c'était 3-2 Suède, puis il restait quelques minutes au match. L'Italie qui était dans le coup contre toute, mais toute attente.
Combien de tirs au but, dont Max?
Bien, au moment où Damien Clara s'est blessé puis est sorti du match, il y avait 46 arrêts.
Incroyable.
C'était 3-2 Suède. Je veux dire, tu sais, puis en plus, son arrêt, le moment où il s'est blessé, c'est sur un arrêt spectaculaire, sur un échappé d'Elias Pettersson. Puis là, après ça, ben, il y a eu un quatrième but, puis un cinquième dans un filet désert. Fait que finalement, ben, ça finit 5-2. Mais juste le fait que l'Italie ait tenu tête à la Suède, c'est une gigantesque surprise. Mais ouais, c'est ça. J'ai un peu le cœur brisé pour le gardien Damien Clara.
Au moins, la Suède s'en est tirée avec une victoire parce que le pays voisin, la Finlande, en a arraché contre la Slovaquie. Puis c'est grâce aux efforts d'un Slovaque bien connu.
Juraj Slafkovský qui a été sensationnel. C'est lui qui a marqué le premier but du tournoi olympique chez les hommes et c'en était un de toute beauté. Puis il y a deux noms à retenir.
C'en était un de toute beauté.
Ben, je fais mes accords comme il se doit, comme un bon francophone.
Était un.
C'en était délié.
C'est pas il était un petit navire, là. C'est pas la même chose, là.
C'en était un.
C'en était tout un.
Hey, on n'a pas beaucoup de temps. On peut-tu parler des vraies affaires?
La souveraineté s'enfonce, Max.
Pour un gars qui est pour le français, là.
Ouais.
Justement, je parle bien, puis c'est vous qui parlez mal.
Mm-hmm. Ouais, ça a toujours été le problème des péquistes.
Ouais.
On a raison, mais pas vous autres.
Maman, sais-tu ce qu'elle disait? Maman disait quand j'étais jeune, s'il y a une personne qui te dit que t'es niaiseux, tu peux passer à autre chose. Quand ils sont plusieurs, il faut que tu commences à y penser.
Regarde, je m'en fous, là. Moi, je sais que j'ai raison. Fait que, puis en passant,
l'extrême centre, c'est mon idée.
Toi, tu fais comme si t'étais le gourou de l'extrême centre, alors que ça part de moi à la base.
Ah, il y a quand même besoin de se prouver. Hein?
Ouais, besoin que ça revienne à lui beaucoup. Hein? C'est spécial.
Peux-tu parler de hockey? Il doit rester 2 minutes.
T'en restes 5. En fait, il nous en reste 5, il t'en reste 2.
OK. Bon, Slafkovský qui a été excellent, oui, très, très bon.
Vraiment.
2 buts, 1 passe. Mais,
deux coups de pied.
Quand il aurait pu scorer son tour du chapeau, finalement, a échappé son bâton en avant du filet désert. Samuel Lavaille, qui est un ancien gardien du Phoenix de Sherbrooke dans l'HMQ, qui est le gardien slovaque, en a gaulé toute une dans une victoire, dans la victoire de 4-1 de la Slovaquie sur la Finlande. Le gars a des stats bien ordinaires cette année dans la Ligue américaine puis dans ECHL. Arrive aux Olympiques, vole la Finlande, pas de problème.
Wow.
Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal des histoires de gardiens qu'on a.
Là, demain, l'entrée en scène du Canada, tout le monde va être là, tout le monde joue. C'est quoi le premier affrontement?
C'est face à la Tchéquie. Oui, encore les maudits Tchèques.
C'est arrangé.
C'est pas... tu regardes l'alignement tchèque, ça serait une catastrophe de perdre ce match-là. Là. Oui, il y a quelques joueurs de la LNH, mais tu sais, quand t'es star, c'est des Andrej Kaché puis des Andrej Palat. Bon, il y a Martin Nečas puis David Pasternak aussi, mais la profondeur n'est pas là pantoute. Oui, il y a moyen de faire une belle ligne là, avec Thomas Hurtle, mettons, puis Pasternak, puis Nečas, mais il n'y a aucune profondeur dans ce club-là. Alors que quand tu regardes l'alignement canadien, là, aujourd'hui, on a refait les lignes un peu à l'entraînement. Cette attaque-là n'a pas de maudit bon sens.
C'est-tu un cas de 8-0 ou c'est un cas de 3-1, mettons? Là?
Ça va être un cas de 5-1.
5-1, OK.
Ouais. Okay. Je pense que, je veux dire, puis on l'a vu aujourd'hui, là, je veux dire, on a eu 2 matchs. Premièrement, une grosse surprise avec la Slovaquie qui gagne, puis un match excessivement serré entre la Suède puis l'Italie. Les équipes arrivent aux Olympiques, puis veux pas, mentalement, quand t'es l'underdog, c'est sûr que tu vas tout le temps aller donner le petit effort de plus par rapport à l'équipe qui est sûr de gagner, puis qui est dans ses hôtels de luxe. Là. fait que je pense qu'on va quand même avoir un match relativement serré demain.
C'est pas parce que le Canadien est aux arrêts qu'on va perdre nos bonnes habitudes. C'est qui goal demain, Max?
On le sait pas. Tout indique que ce sera Jordan Binnington qui avait mené le Canada à la victoire l'année passée
aux quatre nations.
Uh-huh. Je pense qu'on lui, entre guillemets, doit un petit peu d'avoir cette chance-là de commencer comme numéro 1 théorique. Mais après ça, je pense que la corde sera pas longue. Là. T'as Logan Thompson puis Darcy Kuemper, 2 excellents gardiens. T'sais, théoriquement, tu regardes ça là, froidement, c'est Logan Thompson qui devrait être le numéro 1 de ce club-là. Mais c'est ça. Comme je dis, je pense que tu dois un peu le poste à Jordan Binnington. Tu vas y laisser la chance. Mais après ça, je pense que les 3 vont avoir leur chance en préliminaire. Puis après ça, tu vas y aller avec le meilleur.
Hey, merci, Max. Bonne soirée.
Salut, vive l'extrême centre.
Vive l'extrême centre, maudite gang de centristes. 17h52, c'est au centre qu'on va faire un pays, puis une province. Tu vois comment c'est le fun? On règle tout. Oui. On règle tout one shot. Ouais. Véro, on a beaucoup parlé avec PCN
Mon
aujourd'hui.
Dieu.
Oui, hey, pour le meilleur et pour le pire.
Je vous invite fortement à aller réécouter le segment qu'on a fait avec Edith Castonguay, qui est physiothérapeute chez PCN Physio. On parle souvent d'activités sportives, puis on va s'en parler dans les prochains instants. Mais vous allez voir qu'il y a toutes sortes de blessures qui peuvent être traitées par les professionnels du côté de PCN Physio. Dans le cadre de notre promotion, on veut vous aider, on veut vous inspirer aussi, parce que là, on parle beaucoup de Jeux olympiques, on parle d'activité physique, mais on veut savoir quel sport qui vous inspire et quel sport vous pratiquez. Peut-être que dans la chronique, vous allez trouver un autre sport que vous pratiquez aussi. Vous allez au blvd.fm dans la section concours et vous, vous allez vous inscrire. Vous pourriez gagner la chance d'avoir une prise en charge complète en physiothérapie grâce à PCN Physio. Fait que l'évaluation, les conseils et les traitements qui vont vous être offerts pour pratiquer votre activité physique dans les meilleures conditions possibles encore longtemps ou même débuter un nouveau sport qui vous inspire. Aujourd'hui, notre finaliste est Annie Trudel. Elle pratique le ski alpin. Le grand gagnant va être fait le 20 février prochain. Fait qu'allez vous inscrire. PCN offre une multitude de services pour soutenir un mode de vie actif qui va bien au-delà de la physiothérapie. Trouvez la clinique la plus près de chez vous parmi leurs 15 cliniques sur la rive nord et la rive sud au pcnphysio.com.
Audrey, ce ne sera pas un retour à la maison facile pour les gens qui ont décidé de faire ça sur le tard.
C'est vraiment dégueulasse, pour vrai. Je pense à vous autres. Capitale direction Est, c'est loin.
Drôle, moi, je pense à nous autres.
Ouais, mais là, faut pas être nombriliste. Hein? Faut penser à tout le monde.
On s'en va vous rejoindre dans le jam pack.
Ce sera pas long. Capitale Est entre Henri IV et Laurentienne, c'est pas terminé. Laurentienne direction Nord, c'est encore bien bouché. Entre Wilfrid Hamel, mettons, là, et Jean Talon, je vous dirais, ça n'a pas bougé depuis une bonne heure. C'est dû à un accident qu'il y avait un peu plus tôt. Vous rappelez que si vous êtes sur Robert Bourassa Nord, entre Charest et la Capitale, c'est pas terminé. Direction Sud, sur Robert Bourassa, il y a un ralentissement inhabituel à la hauteur de Wilfrid Hamel. Henri IV Sud à partir de chemin Sainte-Foy, difficile jusqu'à l'entrée des ponts. Et sur Charest direction
oui,
ouest.
La Charest.
Entre Jean Gauvin et la 138, il y a deux accidents maintenant.
Audrey est en train de se défaire, ça va être le temps qu'on s'en aille.
Un après le chemin du lac, puis un à hauteur de la 138, ce qui fait que c'est vraiment épouvantable dans ce coin-là. La rive sud, vous êtes correct, mais la rive nord, là, bonne chance.
Désolé pour Audrey, c'est des problèmes de mâchoire.
Nouvelle relation, tu sais.
Avec son oreiller. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. On se retrouve demain, 14h. Et d'ici là, Go Canada!
Salut!
Salut!